Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Quand ils arrivent, ils doivent passer. Donc, il y a des permanences. Nous, c'est l'ADAP, ici, qui a l'agrément du conseil départemental, qui est là pour faire procéder, avec le CAD, aux évaluations, les enregistrer, savoir d'où ils viennent, etc., où ils doivent pointer, entre guillemets, 3 fois par semaine. Donc c'est à eux de, en fait c'est pas à nous, hein, c'est à eux de d'enregistrer tous les nouveaux venus et de trouver une solution et de faire en sorte qu'ils passent sous la protection de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, le plus rapidement possible. Bon, à savoir que c'est pas normalement ce qui est prévu dans la loi, les textes de loi mis à l'abri d'urgence et l'évaluation en 5 jours. Voilà, c'est hors de question. Donc nous, on a vu pas mal de jeunes jusqu'à ce qu'on fasse pré-censer, etc. Même maintenant, où ils étaient 3 mois, 4 mois, 5 mois à la rue, sans être évalués, même pas évalués. Voilà, donc en attente X temps.
Voilà. Il y a aussi de division et de diviser les jeunes entre eux, puisqu'il n'y a pas de place pour tout le monde, monsieur, dans cette solution provisoire, qui n'était pas une solution prise en charge, hein, on est bien d'accord. Voilà, à partir de là, on attend toujours du coup un contact direct avec Martine Vassal qui n'a pas daigné communiquer ou se déplacer autrement que par un communiqué de presse interposé. On n'a pas eu d'interlocuteur et on vous appelle tous à rester ici en soutien aux jeunes toute la journée si c'est possible et jusqu'à ce qu'il y ait une solution parce qu'ils sont à l'intérieur. On ne part pas en manif, parce que si on part en manif, les portes de l'église vont se refermer. Voilà. Donc, ils ont décidé de rester à l'intérieur. Ils ont décidé de ne pas être divisés. Ils l'ont dit depuis le début, depuis mardi soir. Ils ne veulent pas être divisés entre ceux qui ont des OPP, donc des ordonnances de placement, qui ont déjà été jugées par le juge des enfants.
Dans l'église, il y a une espèce de monsieur qui est venu me dire... apparemment, il venait de la préfecture de police, mais il n'a pas eu la correction de se présenter. Il est venu me dire « Mais qui c'est ces gens ?» Je dis « Mais monsieur, ce sont des mineurs. » Il me répond « Mineur, ce n'est pas un statut. » « Si, monsieur, mineur, c'est un statut. » Donc, soit c'était de la provocation de sa part, soit il est totalement incompétent. Il me dit « Mais non, ce n'est pas un statut. »« Bah si, monsieur, renseignez-vous, je vous assure que mineur, c'est un statut. » Et il me répond « Est-ce qu'ils sont érythréens ?» Je dis « Monsieur, érythréen, ce n'est pas un statut. C'est une nationalité. » Donc, est-ce que c'était de la provoque pour voir qui, ce que j'avais dans le ventre, qui on était, etc. Est-ce que c'était de l'incompétence crasse? Je ne sais pas, je lui renvoie la balle, le jour où il veut me répondre, je veux bien.
Disons que nous, on est parti avec 65 mineurs qui étaient à la rue, OPP sans OPP, point, dans l'église. Mais au fur et à mesure, s'en est rajouté, donc on est monté jusqu'à 150, voilà. Bon, quand on a parlementé avec l'ADAP, enfin, qui venait au nom du conseil départemental, on avait demandé au conseil départemental de se déplacer à Madame Vassal. Elle ne s'est pas déplacée. Donc, elle a envoyé donc, les gens de l'ADAP parlementer avec nous, enfin, avec les jeunes, hein, et leur faire des propositions. Et, bon, et eux disaient, bon, ça sera les 65 qui étaient là dès le départ. Et parce que bon, au fur et à mesure, ça a flué, donc voilà. Donc ils leur ont fait une première proposition qui était inacceptable, à savoir être hébergés, mais temporairement, et juste la nuit, et donc à dégager la journée, voilà. Donc ils ont dit non. Et on leur a fait une seconde proposition. On leur a dit, bon, on prend 65 mineurs qui étaient là dès le départ, et on les gardera tant que la situation ne sera pas éclaircie, voilà, tant qu'ils ne seront pas passés sous la protection de l'ASE ou qu'ils seront considérés comme majeurs. Voilà. Donc, ils ont discuté entre eux, c'est eux qui ont décidé ça. Bon, ce n'est pas ce qu'on désirait parce que le lieu en question, et c'est un lieu qui a été jugé insalubre, il y a eu quelques travaux et voilà. De l'autre côté, ils dormaient, ils avaient un toit et ils n'étaient pas obligés de partir tous les jours, etc. Donc, c'est loin d'être le paradis, mais très, très loin. Mais ça leur assure au moins une protection, en fait, un toit sur la tête depuis donc, le 25-26 novembre.
Univox.
J'habite Marseille, je m'appelle Muriel et je fais partie du collectif MIE, mineurs isolés étrangers. Bon, maintenant on devrait dire MNA, bon, ça change tout le temps, mineurs non accompagnés. Donc c'est un collectif qui existait, si je crois bien, depuis deux ans et qui a été un peu réactivé depuis septembre, août de 2017. Hein. Et ce qu'on a institué de Perrin, c'est une permanence juridique le jeudi après-midi au El Mamba pour aider donc ces mineurs isolés à avoir plus rapidement des droits auxquels ben, auxquels ils ont droit quoi voilà donc à savoir à être mis à l'abri, scolarisés, soignés. Bon, et donc avec un collectif d'avocates qui nous suivent dans nos démarches et qui entreprennent toutes les... Voilà. Donc cette permanence permet de faire le lien entre les mineurs qui arrivent au fur et à mesure le jeudi après-midi. Donc on leur indique de la gare où ils arrivent, il y a des maraudes, etc., qui leur indiquent où il faut aller. Ils viennent nous voir et en fonction de ça, on recueille leurs premiers témoignages. Et on fait le lien avec les avocates qui doivent par la suite les contacter et voir avec elles les démarches à entreprendre, s'ils ont une OPP, pas d'OPP, enfin ordonnance de placement provisoire, s'ils viennent direct d'Italie, etc., ou s'ils viennent de notre département, enfin bon voilà. Et en même temps, ça déborde parce qu'on ne peut pas... Bon, on est une permanence juridique, mais en même temps, on se pose le problème des gosses qui arrivent, enfin, je dis des gosses, et qui, ben, sont, jusqu'à maintenant, étaient à la rue, parce qu'ils arrivaient, et donc, voilà. Donc, depuis peu, on a demandé à ce qu'il y ait, à côté, enfin, avec nous, ce jour-là, des gens qui téléphonent à des bénévoles éventuels pour un hébergement rapide, immédiat, au moins 2-3 jours. Voire plus, et pour pas qu'on soit débordé, parce qu'on n'arrivait pas à faire face à toutes les demandes. Bon, voilà, plus la scolarisation, plus le réseau hospitalité, où on essaie de mettre en œuvre quelque chose comme à Nantes, avec un site d'hébergeurs solidaires pour faire face au flux de jeunes qui se retrouvent sans rien. Voilà.
Moi, j'ai arrivé le 8 février. J'ai arrivé au Marseille. J'ai quitté l'Italie pour arriver au Marseille. Bon, franchement, ça ne vaut pas. Parce qu'en en fait, on est là, on n'a pas trouvé les places pour dormir. Vraiment, c'est impossible. On n'a pas de soir, on ne connaît personne. On est dans les rues, donc on dort à la gare, donc c'est difficile. Je dors à la gare ici. Un jour, j'ai dormi à la gare. La dame qui m'a amené à la maison, donc je dors là-bas. Donc, il a fait tout pour moi. Tu vois. Moi, j'allais à Almamba. Almamba qui m'a amené au DOP 13. Il m'a écrit une petite adresse. Si tu veux, chaque mercredi, chaque jeudi, vendredi, je peux venir à Almamba là-bas pour venir te voir. Pour rencontrer avec des gens, si je veux, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi, si je peux venir, je vais là-bas, je prends des cafés, ce que je voulais, je rencontre avec des gens, parce que je connais personne, vraiment c'est impossible. J'ai arrivé en Italie, j'ai contacté avec ma mère, elle m'a envoyé mon papier, après j'ai arrivé en Italie là-bas, j'ai fait 3 semaines après j'ai arrivé en France. Ici, je ne connais personne, je ne sais pas comment je vais le faire. Mais j'aime bien pour aller à l'école, pour apprendre le français, pour apprendre des métiers aussi. J'aime bien pour aller à l'école d'abord. Ouais. La vie en France, j'aime bien en France, mais la vie en France, je pense que c'est difficile. Ouais.
Il y en a qui nous disent, oui, que Marseille, ils se sont à la gare, ils se font voler leurs affaires, leurs chaussures. Ils ne nous racontent pas tout aussi. Voilà, donc on peut pas, on a du mal aussi. Mais on sait que certains, ils l'ont dit, ils se sont fait voler leurs affaires. Et que c'était difficile, quoi. Ils disaient que Marseille, c'était quand même difficile, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'ils restent assez quand même dans leur précaré, quoi. Est-ce qu'ils connaissent la gare, Elmamba, Pressensé, enfin, ils tournent autour de ce qu'ils connaissent, quoi. Tout seul, en fait, plus ou moins, j'ai l'impression, à moins que les bénévoles aillent les promener, mais autrement, ils restent dans un... Bon, aussi, ils n'ont pas de ticket de bus, mais ils sont assez... Mais ça se comprend, quoi. Donc on sait que, ouais, il y a eu certains qui ont été violentés, oui, agressés à la gare, hein, notamment, voilà. Après, dans la journée... Il y a beaucoup de choses, je pense aussi, ils veulent pas nous raconter qu'on ignore, même sur ce qu'ils ont subi, etc. Ils ne parlent pas de tout, quoi. Voilà.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Je m'appelle Anne et je suis à la fois membre du réseau Éducation sans frontières et du collectif Soutien Migrants 13 Elmamba. C'est un collectif qui a 2 ans et demi d'existence, qui s'est en gros constitué au moment où il y a eu ce qu'il est convenu d'appeler un arrivage massif depuis Vintimille, et qui depuis donc fait de l'accompagnement juridique, qui a un réseau d'hébergeurs solidaires, qui lutte clairement au niveau politique. C'est pas une association d'entraide humanitaire, même si on le fait aussi. Ça nous donne une légitimité pour savoir de quoi on parle quand on parle des migrants, parce que les migrants, c'est pas un mot, c'est pas un concept, c'est des gens. Moi, je me consacre plus particulièrement aux mineurs isolés, parce que c'est de plus en plus catastrophique, c'est de plus en plus criant. Et dans tous ces combats avec lesquels je suis entièrement d'accord, il y en a un qui est différent, c'est celui autour des mineurs isolés. Parce que en tant que collectif, et collectif militant et militant politique, en général, on se bat pour que la loi change. Que les lois d'accueil des migrants changent, etc. Sur les mineurs isolés, c'est le contraire. On se bat pour que la loi soit respectée. Et ce n'est pas la même posture. C'est-à-dire que dans ce cas précis, c'est nous, les extrêmes gauchistes vilains dangereux, là, qui demandons à ce que la loi soit respectée. Et c'est les institutions de l'État qui ne respectent pas la loi. Donc c'est une posture légèrement différente. Je ne dis pas que c'est plus facile, mais on n'a pas la même posture. On n'a rien à revendiquer. On a à exiger que la loi soit appliquée. Ce n'est pas la même chose. pourquoi on n'ouvre pas de squat, je ne sais pas. Je peux lancer comme ça des explications qui sont sûrement pas exhaustives. Déjà, c'est super compliqué d'ouvrir un squat et de le tenir. Ouvrir, on peut, hein. C'est pas compliqué d'ouvrir. Par contre, il faut le tenir. Pour le tenir, il faut du monde. Alors, on est nombreux au Mamba, mais on est tous la tête dans le guidon. Et il faudrait... Voilà. Et puis, ça se gère, un squat. Il faut seulement le tenir, tenir ouverture, mais ça se gère. Il faut manger, il faut faire à manger, il faut récupérer du coup la nourriture alors qu'on récupère, hein, sur les marchés, les invendus, etc. Mais tout ça, ça demande énormément de temps et d'énergie. Alors que les hébergeurs solidaires, et on a une belle liste d'hébergeurs solidaires, chacun est autonome. Les hébergeurs sont autonomes sur la prise en charge du ou des jeunes qu'ils hébergent. C'est quand même plus facile. Ça crée aussi, ça a aussi l'avantage de créer un réseau de solidarité. Il y a des tas de gens qui hébergent, qui ne sont pas forcément des militants, qui ne sont pas forcément avec des postures, des positions politiques, mais qui ont à cœur d'héberger parce qu'ils ne supportent pas qu'en 2018, à Marseille, il y ait encore des gens qui dorment dans la rue. Et des mineurs encore moins. C'est encore moins supportable. Voilà.
Donc, il faudrait qu'on sonde un petit peu. El Mamba, ils ont des hébergeurs. Réseau Hospitalité, ils ont des listes aussi. Après, il y a des gens qui, à la gare... spontanément propose, on envoie, on dit mais tu es venu par qui, comment t'es logé, il me dit je suis logé chez un tel, mais comment il t'a, à la gare, il a vu que j'étais seule, et enfin où elle a vu, et il m'a emmené chez eux. Donc il y a aussi beaucoup de gens tout seuls, donc il faudrait fédérer tout ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est des gens par exemple qu'on peut avoir sollicité par une liste, et ces gens-là dans un quartier ou dans une rue ou par affinité avec des amis vont, c'est ça qui est, vont faire boule de neige quoi. Donc par exemple, j'avais confié par quelqu'un qui m'a dit je connais des gens, des jeunes filles qui viennent s'installer à Marseille, des jeunes femmes et qui aimeraient faire ça. Donc je les ai contactées et elles m'ont dit OK, on peut en prendre deux. Et donc elles ont pris deux qui ont tout juste 15 ans, donc c'est deux jeunes, là ça fait depuis 2 semaines qu'elles les ont, et elles en ont parlé à d'autres personnes qui étaient prêts à le faire aussi, donc qui nous ont contactés. Et en fait, de bouche à oreille, voilà, c'est et après c'est les listes, bon, des gens qu'on connaît un peu, mais c'est souvent en fait le bouche à oreille qui marche beaucoup.
Univox, ce qu'attend l'OFPRA pour les adultes ou les organismes chargés d'évaluer la minorité et l'isolement d'un jeune, c'est un discours circonstancié. Eux, ce qu'ils attendent, c'est un discours avec à telle date je suis rentrée à tel endroit, à telle date je suis passée par là, à telle date je suis passée par là. Moi, je voudrais que les gens qui sont chargés de les recueillir, ces récits de vie, on leur dise voilà, t'as 2 heures pour résumer ta vie, vas-y. Voilà, voir comment on est capable. Et surtout, plus le parcours de vie est difficile, douloureux, plus il est compliqué à mettre en mots. Comme si on ne connaissait pas les mécanismes de défense d'un esprit traumatisé qui est de vraiment occulter certaines choses trop douloureuses. Or, ce sont ces choses douloureuses qui pourraient permettre de demander l'asile. Sauf que ces choses-là, c'est les plus difficiles à dire. Et imaginez en plus, quand on ne parle pas la langue, ça veut dire que non seulement il faut dire des choses intimes à des gens qu'on n'a jamais vus, mais en plus, il faut faire confiance totale à quelqu'un qui traduit, en sachant qu'on n'a aucune idée de ce que l'autre va traduire. Et on n'a aucune idée non plus... j'ai pas mal fréquenté de gens qui traduisent des récits de vie, qui sont complètement horrifiés, et qui disent, il y a des fois, qui disent, mais moi, je peux pas traduire ça. Je choisis de pas traduire, je peux pas. Même moi, j'arrive pas à le dire. Voilà. Donc, tout ça, c'est la réalité. Il y a une cellule de répartition nationale des mineurs isolés étrangers, qu'on appelle maintenant mineurs non accompagnés. Le mot étranger a disparu. Cette cellule de répartition nationale répartit les jeunes en fonction des places que font remonter les différents conseils départementaux à cette cellule. Et il se trouve que sur le fichier de cette cellule, il y a beaucoup de places dans le 13. Le 13 est très doté parce que Marseille est une grande ville, donc elle est dotée de beaucoup de places. Donc Il y a beaucoup de juges qui envoient les jeunes dans le 13. Mais ça crée des situations totalement aberrantes. C'est-à-dire qu'encore très récemment, on nous a envoyé de l'Aude, de l'Isère, de l'Ardèche, à minima, des jeunes qui étaient pris en charge dans les départements d'origine, pris en charge, famille d'accueil ou foyer, certains déjà scolarisés, à qui on a dit « Ah ben non, toi t'as une OPP 13, alors tu repars à Marseille ». Ils arrivent à la gare, on leur dit « Ah ben non, il n'y a rien pour toi, tu dors dehors ». Alors qu'ils avaient déjà été pris en charge, ils avaient créé des liens, soit avec une famille d'accueil, dans leur lycée, avec leurs copains, avec leurs profs, et puis tout d'un coup on leur dit « Ah ben non, c'est une OPP 13, donc tu t'en vas ». Et tu dors dans la rue, de nouveau. Alors qu'ils avaient commencé à se poser, commencé à, sûrement pas à oublier leur parcours, mais au moins à dire « Bon allez, ça y est, je suis posé quelque part », eh ben non, tu repars et tu repars dans la rue. Donc là aussi, on a aussi des actions à mener. Et donc, comme moi en particulier, mais parce que je suis au réseau Éducation sans frontières depuis longtemps et du coup en lien avec les autres départements, on a un petit peu l'idée, l'envie d'une rencontre 04 05 13 38 pour voir comment on pourrait vraiment se mettre en lien quand il y a un gamin, parce que franchement, quand il y a un gamin à Grenoble qui doit être envoyé à Marseille, et de toute façon, Marseille, personne ne l'attend, est-ce que c'est pertinent de l'envoyer à Marseille? Voilà. Donc on est beaucoup en lien avec 0405 aussi, ne serait-ce que parce que Briançon, c'est aussi ma ville natale, et que j'y ai quand même plein d'attaches aussi. Et voilà, et créer une espèce de réseau où, au lieu de promener les gamins comme des pions sur un échiquier, ce que font les CD, nous, qu'on essaye de les traiter comme des gens et pas comme du bétail qu'on promène, quoi, voilà.
Des fois, tout à coup, il y en avait 5 OPP de notre département qui avaient pas, la DAP n'était pas venue les chercher à la gare, donc ils débarquaient. Donc dernièrement, c'était de 5 de Rodez. Ils ont débarqué là alors qu'on devait les attendre. Personne n'est venu les chercher, donc ils ne savaient pas. Voilà. Donc ça a été. Il y a eu disons que pendant des moments de crise, on peut dire entre 10 et enfin 15, une quinzaine par permanence, mais ça a été rare quand même. En règle générale, c'était 10. Mais après, il fallait aussi aller les chercher parce qu'il y avait aussi des trucs. On leur disait attention, si vous prenez des avocats, alors la DAP ou autre, ça va pas marcher. Donc il y en avait qui nous disaient non, on veut pas d'avocat, et, ou alors on veut pas venir vous voir, on veut pas aller voir à El Mamba parce qu'après on va avoir des problèmes, etc. C'est pour ça que, je veux dire, nous on a un point de vue, mais je veux dire, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir des chiffres de la DAP. Voilà. Et c'est eux qui savent. Nous, je veux dire, on voit qu'une partie. Mais depuis, en fait, qu'on a commencé la permanence juridique, tout confondu, pré-censé jusqu'à ce jour, on en est à peu près à 150 jeunes qui sont passés chez nous. Voilà.
Donc, ce que fait le CD, c'est sûr que le CD héberge et prend en charge. Ils nous ont dit aussi qu'ils prononçaient une centaine, qu'il y avait actuellement une centaine de contrats jeunes majeurs. Jeunes majeurs, c'est des jeunes qui ont été pris en charge mineurs et qui, à l'accès à leur majorité, parce qu'ils sont en cours d'études, etc., bénéficient encore d'une protection. Maintenant, il y a l'histoire de la mise à l'abri. La mise à l'abri, c'est, voilà, on vous met à l'hôtel. On a encore des dizaines de jeunes qui sont dehors. Dehors, il faut aussi, il y a deux catégories de jeunes qui sont dehors. Il y a ceux qui sont dehors, à la gare, qui dorment vraiment dehors, par terre, sur un trottoir, sur deux cartons, etc. Et il y a ceux qui sont pas mis à l'abri par le conseil départemental, mais qui sont hébergés par des solidaires. Voilà. Alors, je pense qu'il faudrait distinguer ceux qui sont dans la rue, au sens propre du terme, qui dorment dehors, et ceux qui sont pas mis à l'abri par le CD, mais qui sont pas dehors, qui sont quand même au chaud chez des solidaires. Et je pense que ça, il faudrait le quantifier. Je pense que ça fait aussi partie d'une de nos pistes de travail. Et puis, normalement, le CD ne doit pas seulement mettre à l'abri. Il doit aussi prendre en charge. La prise en charge totale, en l'absence de parents, c'est nourrir, loger, soigner, scolariser. Et là, il y a aussi un très gros déficit de la part du CD. C'est-à-dire que qu'il y ait des gamins mis à l'abri et un peu mieux depuis quelques jours, OK. Mais ça, c'est pas une prise en charge. Et les jeunes qui sont au centre de pré-censé, c'est-à-dire en gros les jeunes qui ont été mis à l'abri à la suite de l'occupation de l'église, ceux-là, ils sont toujours pas pris en charge. Ils sont à l'abri, ils sont pas pris en charge. Ceux qui sont scolarisés, c'est nous qui les avons scolarisés avec nos réseaux militants. Ça nous a même été pas vraiment reproché, mais ça a été souligné. Comment ça se fait que vous, les réseaux militants, vous obtenez, vous trouvez des places dans l'établissement scolaire et nous, les institutions, on ne les trouve pas? Eh bien, on peut se poser la question, est-ce qu'on est un peu plus investi? Est-ce qu'on on échappe au cadre lourdingue administratif? C'est possible. En attendant, oui, nous, on arrive à trouver des places. Oui. Donc, il y a certains jeunes qui sont toujours à présenser, donc toujours pas pris en charge, mais mis à l'abri, qui sont déjà scolarisés grâce aux réseaux militants. Alors, au niveau national, c'est la campagne Justice pour les jeunes isolés étrangers. Maintenant, en termes de réseau militant, il y a un réseau, nous, ici, Coordination Migration Sud-Est, pardon. Ça, celui-là, il existe, on se voit de temps en temps. Au niveau national aussi, alors c'est en train de se mettre en route aussi, puisqu'à Lyon, je crois que c'est fin mars, le dernier week-end de mars, il y a une rencontre justement pour qu'on se mette en lien autour des mineurs isolés et en particulier autour des occupations de fac, et etc. J'ai fait passer un mail hier ou avant-hier là-dessus.